Hello, ça fait un moment, on va faire une vidéo. Aujourd'hui, on parle SEO. Hey. Hello everybody, welcome to Summit Boutique Digital. Aujourd'hui, on va parler SEO, Search Engine Optimization, ou optimisation pour les moteurs de recherche. On va parler de référencement naturel, comment faire pour classer votre site sur Google. Et on va passer par 6 étapes. Étape numéro 1, SEO Strategy. Donc comment établir votre stratégie pour vous référencer. Étape numéro 2, Keyword Research, ou comment faire pour trouver les termes et les sujets sur lesquels vous allez vous classer. Étape numéro 3, Searcher Satisfaction. On va voir comment faire pour pouvoir comprendre l'intention derrière les recherches des gens et comment satisfaire ce besoin. Étape numéro 4, On-Page Optimization. On va voir comment optimiser les pages individuelles de votre site pour pouvoir vous classer sur ces sujets ou ces mots-clés-là. Étape numéro 5, Technical SEO. On va voir la partie technique du SEO. Là, il va falloir avoir des petites bases en HTML. Étape numéro 6, Link Building. Comment obtenir des liens d'autres sites qui vont pointer vers vous. Et ça, on va laisser ça pour la fin parce que c'est vraiment compliqué. Partie numéro 1, SEO Strategy. Comment établir votre stratégie. L'idée, c'est de d'abord définir quel est votre objectif business. Qu'est-ce que votre entreprise essaye de faire ou d'accomplir et qu'est-ce que le SEO, ou comment le SEO plutôt, pourrait vous aider à atteindre cet objectif. On a business goals et on a aussi marketing goals, donc les objectifs marketing qu'on a. On va définir notre business goal. Par exemple, là, pour moi, pour Jean42 ou pour samuelblick.com, je voudrais accroître la notoriété de samuelblick.com, mais du coup, l'SEO ne peut pas me permettre tout seul d'accroître cette notoriété. Ce que j'ai besoin de faire, c'est avoir un effort multicanal qui va pousser à la recherche et du coup, je dois ranker pour mon nom, ce qui est assez facile, ou sur les sujets que je traite, qui vont être web marketing, développement de site web, référencement naturel, donc ce qu'on est en train de faire là, réseaux sociaux, publicité sur Internet, création de contenu. Donc, je vais devoir créer beaucoup de contenu vidéo, audio et texte, surtout texte pour les moteurs de recherche, et faire en sorte que tout ça rank, donc justement, se référence sur Google pour que je puisse justement augmenter ma notoriété. Je dois m'assurer que sur tous les titres que j'ai et un peu les descriptions, que mon nom et le nom du sujet soient présents. Marketing goals, c'est justement à partir de cet objectif, tirer justement la partie notoriété et comment faire pour que, faisant en sorte que les gens trouvent ces noms et ces sujets-là, puissent être attirés vers le site et que je les transforme en potentiels clients parce qu'ils ont développé une relation avec mon contenu, une relation avec moi directement à travers des messageries directes et à partir de ça, augmenter le niveau de confiance et faire en sorte que je décroche des clients. Donc pour ça, il y a des méthodes. Ce qu'il faut faire en général quand on commence, c'est se concentrer sur des termes qui sont recherchés très très peu mensuellement ou bien qui ont un gros taux de recherche mais très très peu de compétition. Ça, c'est les mots-clés et les sujets qui sont les plus faciles à aborder en premier. Donc vous commencez avec cela. Et du coup, ne vous attendez pas aussi à avoir des résultats immédiats. Bien qu'en Algérie, comme il n'y a pas beaucoup de compétition sur la partie SEO, vous pouvez assez rapidement commencer à vous classer si ce n'est pas un sujet hautement commercial qui se trouve par exemple sur des sites comme Wodkiniz ou sur des sites comme Jumia qui ont un taux de référencement super élevé. Mais sur tout le reste, vous pouvez très facilement commencer à vous ranker. Du coup, il ne faudrait pas se concentrer sur les mots-clés et les sujets les plus recherchés, mais chercher les niches. Par exemple, sur le mot smartphone, c'est juste impossible de se classer. Par contre, si vous cherchez petit smartphone, budget, Algérie, rose, là déjà, vous avez beaucoup plus de chances de vous classer que si vous allez que sur le mot smartphone tout court. Il y a des petites techniques comme ça où il faut chercher justement les mots-clés de niche en rajoutant des descriptifs qui sont de plus en plus précis par rapport à ce que vous faites. Comment est-ce que vous allez procéder après avoir attaqué le premier, soit avec un faible volume de recherche et du coup pas de compétition ou bien très peu de compétition sur un grand volume de recherche, vous allez avoir un objectif en tête qui va être sur les 3 à 6 mois pour pouvoir avoir de très très bons résultats. Ensuite, sur la prochaine partie des 6 à 9 mois, vous allez commencer à attaquer des mots-clés qui sont de plus en plus compétitifs. Par la suite, sur des délais de 12 à 18 mois, là vous allez commencer à attaquer des mots-clés qui sont extrêmement compétitifs. L'idée, c'est que vous allez commencer à construire votre potentiel de classement sur Google avec ces petits mots-clés, ce qui va vous aider à attaquer plus facilement les mots intermédiaires et ensuite les mots-clés les plus compliqués. En fait, comme vous allez aussi travailler sur votre nom de marque, donc le brand name que vous avez, vous allez de plus en plus associer ces sujets à votre brand name. Le brand name va prendre de plus en plus d'importance et de classement. Les gens vont de plus en plus les rechercher. Votre site sera de plus en plus visité et ça va faciliter justement l'attaque de ces mots-clés qui sont modérés à compliqués. La deuxième partie, c'est le keyword research, ou comment faire des recherches de mots-clés. La première chose à faire, c'est comprendre quel est l'environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer et quels sont les termes qui sont utilisés en général. Et ce qui vous permettra de pouvoir établir une stratégie SEO beaucoup plus cohérente. À partir de là, vous allez faire une liste de ces mots-clés, justement, qui vous correspondent et qui sont très intéressants pour votre business, ce qu'on appelle un portefeuille de mots-clés. Mais surtout, ils doivent être potentiellement atteignable en termes de référencement. Si vous allez sur des mots-clés qui sont très très loin de votre portée, c'est-à-dire que vous avez un domaine score, c'est le score qu'on peut donner pour un nom de domaine par rapport à son potentiel de référencement, il va de 1 à 100. Si vous êtes à moins de 10 et que le mot-clé, les mots-clés que vous cherchez, les sites qui sont rankés sont plus dans les 80-90, ça va être limite impossible de le faire. Si vos concurrents, c'est des Google, des YouTube, autres sites super connus, oubliez-les, allez vers de la niche. Donc si vos concurrents par contre sont les 20-30, c'est beaucoup plus atteignable. Et du coup, vous devez d'abord mettre la priorité sur les mots-clés qui sont les plus faciles à atteindre avec le maximum de retour sur investissement. C'est-à-dire que vous allez définir, on va dire, un tableau où vous allez avoir, par exemple, donc la liste des liens que vous avez, la liste des mots-clés par lien, ensuite le score de chacune des pages, page score, il y a plein d'outils qui vont vous donner ça. Et ensuite, vous allez voir donc, le temps de chargement de la page, un critère pour la qualité du contenu et par la suite, donc le keyword difficulty, la difficulté du mot-clé. Il y a des outils aussi qui vous calculent ça par rapport à la concurrence et par rapport à votre potentiel et le volume de recherche qui existe. Et ensuite, vous allez rajouter une colonne à la fin qui va être une colonne qui va parler de objectif business. Donc à quel point, c'est un score sur 10 par exemple, à quel point est-ce que ce mot-clé est intéressant pour notre business? À partir de tous ces éléments, ceci vous donne un tableau de décision qui va vous aider justement à choisir quels sont les mots-clés sur lesquels vous allez aller. Vous devez aussi faire la différence entre ranker pour le mobile et ranker pour le desktop. Donc le classement est très différent sur Google entre desktop et mobile. Vous devez avoir le même tableau dont j'ai parlé pour mobile et pour desktop. Et du coup, vous allez avoir justement la même stratégie mais divisée en deux. Vous allez targeter différents mots-clés dépendant de quel appareil vous allez utiliser. Donc pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne, vous avez ce graphe où vous avez de ce côté cette barre qui représente le nombre de recherches par mois, cette barre qui représente le nombre de mots-clés et ce graphe qui va nous donner justement la difficulté. Plus vous êtes de ce côté, plus il y a des mots-clés qui sont très recherchés, mais plus la compétition est élevée. Donc là, on va avoir les mots-clés les plus compliqués sur lesquels on va devoir se classer. Par là, nous avons plein de petits mots-clés avec des tonnes de recherches. Par contre, chaque mot-clé individuel a très très peu de recherches, mais c'est très facile de se classer. Et là, au milieu, justement, vous allez avoir un peu de tout. Vous allez avoir des mots-clés avec beaucoup de volume et pas beaucoup de compétition, et des mots-clés avec beaucoup de volume et beaucoup de compétition, des mots-clés avec peu de volume et beaucoup de compétitions. Bref, il y a un peu de tout. L'idée, c'est de commencer par là et graduellement commencer à monter sur tout ce qui n'est pas difficile pour ensuite pouvoir attaquer ceux qui sont difficiles ici et finir par là. Et du coup, en prenant tout ça en compte, vous allez devoir sortir un tableau qui ressemble un peu à ça. Là, vous avez les mots-clés, le volume de recherche, la difficulté, le taux de clic, la valeur pour notre entreprise, la priorité et le type de résultat sur le moteur de recherche. SERP, c'est Search Engine Result Page. Voilà un exemple qu'on peut utiliser. Sur ce mot-clé, on va prendre par exemple des pulls pour une équipe de foot FC Jersey et on va voir ce que ça donne. Donc vous avez le volume, la difficulté, taux de clic organique, business value, la priorité et le type de résultat qui vont apparaître. Troisièmement, on va attaquer Searcher Satisfaction. Comment satisfaire les recherches des internautes. Sur la partie Searcher Satisfaction, on va devoir donc imaginer un scénario. Imaginons qu'on a quelqu'un qui est en train de chercher à partir en vacances en Italie. Il va chercher meilleurs endroits à visiter en Italie. Il va falloir que nous, pour nous classer par rapport à cette recherche, qu'on comprenne ce qui se passe dans la tête de ces internautes-là qui sont en train de faire ces recherches. Et qu'on ait de l'empathie envers qu'est-ce qu'ils veulent voir comme type de résultat. Pas le type de contenu en lui-même, c'est-à-dire qu'on ne va pas mentir, mais on va présenter ça de la meilleure manière possible dans un site qui est le plus facilement accessible, qui a une interface super sympathique, et ainsi de suite. La priorité numéro 1, il faut répondre à la recherche de l'internaute de manière compréhensive et avec ce qu'on appelle de l'autorité. Il faudrait présenter un site qui soit facile à utiliser, rapide en téléchargement, agréable à naviguer, quelque chose qui nous fait plaisir à utiliser. Ça, c'était la première question qui était meilleurs endroits en Italie. Quelle est la prochaine question logique qui viendrait après ça? Ça peut être les hôtels, ça peut être les restaurants, ça peut être les billets d'avion, ça peut être plein de choses. Donc d'après justement comment ça va se passer dans la tête des internautes, il faudrait donner justement dans la même page les autres étapes, les prochaines étapes. Donc que ce soit du contenu texte, vidéo, images, que ce soit des outils, que ce soit des liens vers d'autres pages. Quel serait le meilleur moyen de répondre justement à la suite sur cette page-là? toujours le concept de l'empathie. Et bien sûr, essayez toujours de rajouter quelque chose en termes de créativité et de contenu qui vous donne un avantage à long terme. N'essayez pas d'attaquer quelque chose qui est juste immédiat, maintenant promotion pour décembre ou un truc comme ça. Non, essayez de faire quelque chose qui vous donne un avantage sur le long terme. Le type de promotion instantanée, c'est bien aussi, mais pas pour le référencement. Vous voulez quelque chose qui soit ce qu'on appelle le content evergreen, quelque chose que les gens vont pouvoir chercher à très long terme. Je sais pas, par exemple, si on va parler toujours des meilleurs endroits à visiter en Italie, chacun de ces endroits, faire un article qui va expliquer l'histoire de cet endroit, une vidéo qui présente justement quelqu'un qui est en train de vlogger en expliquant cet endroit. Imaginez un concept puisse être à grande valeur ajoutée justement pour les internautes. L'autre chose à surtout ne pas faire, c'est avoir une expérience qui va pousser les gens à quitter votre site et aller voir un autre site sur cette page de recherche. Si assez de gens font la même chose, au fur et à mesure, Google va commencer à vous baisser dans les résultats et faire monter vos concurrents qui présentent une meilleure expérience. Ça peut être, dès que je rentre dans le site, vous essayez de me vendre quelque chose. Il y a un pop-up qui arrive, le site se charge lentement, le contenu n'est pas forcément compréhensif ou facile d'accès. Tout ce qui est une mauvaise expérience, à éliminer ou à améliorer justement sur votre site. Partie numéro 4, on-page optimization. Comment optimiser vos pages, ce qu'on appelle aussi le keyword targeting, donc comment cibler les mots-clés pour les pages. Notre liste va commencer par 1. Il faudrait que votre titre soit bien rempli en mots-clés et qu'il soit très très intéressant à lire et qu'il soit correctement décrit. Étape numéro 2, votre description soit designée pour pousser au clic. Dès que j'ai lu la description, ça répond à un besoin. Étape numéro 3, l'URL donc, que vous avez sur la barre, le titre doit être là-bas. Ça doit être descriptif et représentatif de cours aussi, donc pour pouvoir pousser les gens à cliquer dessus aussi, dont on peut se rappeler facilement. Ensuite, le premier paragraphe que vous avez, il doit être designé pour apparaître facilement dans les snippets, donc les petites options qui vont rajouter donc les answer box sur Google ou bien les images, ou bien ça dépend de quel résultat apparaît dans ce type de recherche. Et ensuite, utilisez vos mots-clés de manière intelligente dans le titre, dans la description, dans le premier paragraphe, dans le contenu de la page et dans les liens internes quand vous allez créer ce qu'on appelle le texte d'ancrage, donc le truc en bleu qui est cliquable mais que c'est pas un lien, c'est du texte. Donc ça, ce qu'on appelle le titre d'ancrage, il faudrait mettre les bons mots-clés à ce niveau-là. Aussi, il faut savoir qu'avant, on designait chaque page pour répondre à un mot-clé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui et comment Google fonctionne, on s'intéresse plus à une page par intention de recherche. Quelle est l'intention de recherche à laquelle cette page répond? Donc, comme on l'a dit au début, en faisant partie d'empathie et comprendre quelle est l'intention de recherche derrière la recherche, donc le mot-clé que les gens ont tapé, vous pouvez avoir plusieurs mots-clés qui répondent à la même intention de recherche et qui sont tous dans la même page. Et chacune de ces pages va répondre à une intention de recherche. Aussi, tout ce qui est snippets, les options de plus qu'il y a dans le moteur de recherche, soit answer box, vidéo, photo, quel que soit le type d'options qui apparaissent en plus des 10 résultats en lien sur Google, vous devez optimiser votre contenu par rapport à ça. Quand il s'agit de photos par exemple, n'oubliez pas de mettre le titre et la description de la photo. Les noms des fichiers, ce serait bien aussi de mettre une bonne description dans le nom du fichier directement. Et vous devez aussi faire en sorte de les stocker, ces images par exemple, ou pas les vidéos parce que ça c'est autre chose, mais pour les images, qu'elles soient stockées dans le même domaine ou dans le même sous-domaine. Et si vous pouvez rajouter les captions, donc les petites boxes qui vont apparaître quand vous allez au-dessus d'un contenu, donc sans cliquer, il y a une petite box qui va apparaître, cette box-là, ce qu'on appelle la caption. Ajouter aussi une bonne description et un bon titre à cette caption. Et maintenant, on est à la partie 5 qui est Technical SEO, la partie technique. Maintenant, sur cette partie, on va essayer de se rappeler que chacune des pages de votre site doit être précieuse et unique. Comment est-ce qu'on va déterminer ça? Il faudrait que chacune de ces pages, on ait envie de la visiter, on ait envie de rester sur cette page et ça nous donne envie d'aller voir la page suivante parce qu'il y a une relation directe entre les deux. Et ça, c'est ce qui fait que justement, ça rajoute au côté précieux de chacune des pages. On va vraiment mettre tous nos efforts et donner le maximum de notre créativité et de nos recherches et de notre intelligence dans chacune de ces pages. Mais des fois, ça ne suffit pas. Toutes vos pages devraient et sont censées être navigables par les moteurs de recherche. Donc, ils peuvent les scanner, ce qu'on appelle le crawl. Chacune des pages doit être crawlable. Donc, vous avez des outils qui peuvent auditer votre site et page par page, ils sont gratuits. Vous pouvez les tester pour voir est-ce que la crawlabilité de vos pages est OK ou pas. Une fois que vous avez ça, vous devez vous assurer. Le premier critère, c'est à quelle vitesse se charge votre page. Il faudrait absolument que ce soit en dessous de 2 secondes. Le must du must, c'est en dessous de 1 seconde. Si c'est 3 secondes et plus, vous êtes sûr que 90% de votre trafic va se barrer. Assurez-vous que le temps de chargement de vos pages soit le minimum possible, humainement faisable. Et pour ça, vous avez énormément de ressources sur Internet de comment optimiser ça. Compresser la taille des fichiers, optimiser le code qu'il y a sur votre page, donc que ce soit de l'HTML, du CSS, du Java, qu'il n'y ait pas trop de code qui ne soit pas utilisé. Tout ce que vous pouvez faire, il y a plein de ressources. Documentez-vous. Ensuite, tout ce qui qui est contenu maigre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de texte sur la page, tout ce qui est contenu dupliqué, loops ou des spider traps, donc des trucs qui vont bloquer les crawlers de Google ou bien des trucs qui vont les faire tourner en boucle, tout ça c'est à éviter parce que ça va vous donner des points négatifs au niveau de Google et ça va vous faire baisser. Pareil, il y a des outils qui détectent ça et qui vont vous aider justement à modifier le tout. Ensuite, les pages qui sont précieuses, vous devez vous assurer qu'il soit énormément de liens internes dans votre site, qu'ils soient très faciles d'accès depuis n'importe quelle autre page, ce qui va aider justement à les propager en haut et qu'il y ait des liens de ces pages-là vers d'autres pages qui sont moins précieuses pour les aider aussi à mieux se ranker et mieux se classer. Et bien sûr, il faut vous assurer que toutes vos pages et surtout les pages précieuses soient très facilement accessibles depuis n'importe quel type d'appareil, ordinateur, smartphone, tablette, téléviseur, tous les appareils. Vous devez être optimisé pour tout parce que si vous avez un point négatif sur un appareil, sachez que vous allez perdre tout ce public-là. Bien sûr, les plus importants vont être toujours les smartphones. Ensuite, on va avoir desktop, puis tablette, puis peut-être téléviseur, console, etc. Aussi, vous devez être optimisé pour tous les types de connexions. Les gens qui sont connectés en Wi-Fi, en 5G, 4G, 3G, 2G, Edge. Bon. Faut penser aux personnes qui vont devoir se connecter avec des connexions très très limitées et du coup, limiter la quantité de données qu'il y a sur la page en termes de poids et le temps de chargement. Utilisez l'HTTPS, donc sécurisez vos domaines avec des certificats SSL. Ils sont gratuits, votre hébergeur les fournit sûrement. S'il ne c'est pas le cas, changez d'hébergeur. Ce qui nous amène à la sixième partie qui est link building. Comment faire pour attirer des liens qui vont pointer vers votre site? Comment pousser d'autres sites à mettre des liens qui envoient vers le vôtre? Pourquoi est-ce que ces liens sont si importants pour le SEO? En fait, c'est le critère numéro 1 en termes de classement. Et pourquoi on l'aborde en dernier? C'est parce que vous ne pouvez pas vraiment faire du link building si vous n'avez pas fait tout ce dont on a parlé au début. Le link building, c'est vraiment convaincre quelqu'un, un être humain, sur son site, créer un lien qui va mener vers votre site. Si vous êtes dans le business du site web, vous savez que plus les gens vont rester sur votre site, plus vous allez pouvoir ranker et plus vous allez avoir de revenus, que ce soit publicitaire, plus de classements, donc plus de prospects, donc plus de clients. Bref, on n'aime pas quand les gens quittent notre site. Mais du coup, on va avoir besoin que ces gens-là mettent un lien qui va potentiellement pousser les gens à sortir de notre site. Il faudrait qu'il y ait un gros avantage, il faudrait qu'ils aient très très bonnes raisons pour que ce soit plus intéressant que garder les gens sur leur site. Et pour ça, il faudrait que notre site ou sur la page vers laquelle ils les envoient soit une page tellement intéressante avec une valeur ajoutée tellement élevée que ça leur donne envie de le faire. Ça va se baser sur la qualité du contenu qu'on va faire, le relationnel qu'on a avec les gens, donc c'est un peu de la relation publique ou de la relation presse, et bien sûr, surtout, la qualité et la valeur ajoutée du contenu qu'on a fait. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que Google, quand il a commencé, il a déterminé que ça c'était le facteur numéro 1 parce que quelqu'un qui pointe un lien vers votre site est en train de recommander votre site. Plus il y a de sites qui vous recommandent, plus vous avez de l'autorité et plus vous allez augmenter. C'est comme dans la vie. Imaginez que j'ai envie d'aller voir un médecin et j'aimerais bien que ce soit un bon médecin qui prenne soin de tel ou tel problème. Et vous posez la question autour de vous et tout le monde pointe vers le même docteur. Ce docteur, il a construit une solide réputation et tout le monde le recommande. C'est la même chose pour les sites web. Tous ces gens qui vous ont recommandé ce docteur, c'est comme si c'était plein de sites qui sont en train de pointer vers le même site web. Le site web de ce docteur, par exemple. Maintenant, comment Google va mesurer la valeur de tous ces liens? Tous les liens n'ont pas le même poids. Si je me fais pointer depuis un blog qui a été publié hier pour la première fois ou si je me fais pointer depuis le New York Times, ces deux liens n'ont absolument pas la même valeur. Celui-ci est beaucoup plus important que l'autre. Pourquoi ? Google va d'abord déterminer que ce lien-ci vient d'un domaine vers lequel pointent énormément d'autres sites. Il y a énormément de sites qui pointent vers le New York Times pour citer des articles et toute autre chose. Numéro 2, il va déterminer aussi sa valeur par rapport à la diversité de ces domaines. Est-ce que c'est uniquement des .com ou est-ce qu'il y a des .com, .fr, .dz, .us, super diversification. Et ensuite, est-ce que le lien qui pointe vers ça, est-ce que c'est un lien qui est en nofollow ou follow? Donc si c'est un follow, excellent. Si c'est un nofollow, ça sert à rien. Est-ce que c'est un lien qui est index, noindex? Donc si c'est non indexable, ça sert à rien. S'il est indexable, c'est bien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est beaucoup plus bas en termes d'intérêt. Et ensuite, est-ce que le lien vers lequel il pointe, est-ce que c'est un lien nu ou alors est-ce que c'est un lien qui est en mode texte d'ancrage et donc il a un mot-clé en plus? Ça, c'est encore plus important et beaucoup plus précieux. Ça, ce sont des critères que Google prend en compte. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir construire ces liens externes? Première méthode qui est la plus utilisée, c'est créer du contenu et faire du outreach. Donc, allez demander à des gens de pointer vers vous. On ne demande pas à n'importe qui non plus. Il faudrait demander à des sites qui ont une relation directe avec ce que vous faites. Par exemple, les sites journalistiques qui vont traiter des sujets qui sont en relation avec ce que vous faites, oui. Mais si vous êtes une boulangerie et que c'est un site qui vend des vélos qui va pointer vers vous, limite ça sert à rien, ça peut se retourner contre vous. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle link reclamation. Donc vous allez réclamer un lien. Si vous avez des citations sur internet, qu'un site vous a cité, il y a votre nom qui apparaît, vous pouvez aller demander juste s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rajouter le lien qui pointe vers nous. Ça, ça a plus de chances parce qu'ils ont déjà parlé de vous. Et ensuite, on a tout ce qui est listing, groupe, forum, etc. Tout, c'est beaucoup moins important que les autres types de liens, mais c'est quand même toujours une bonne chose si vous avez des liens qui viennent par là et c'est beaucoup plus facile de les avoir. Et ensuite, essayez de checker qui sont les sites qui sont en train de pointer vers vos compétiteurs. S'ils pointent vers vos compétiteurs, il est probable qu'ils puissent pointer vers vous. Ça, ça peut vous aider. En checkant, par exemple, pourquoi ils ont pointé vers nos concurrents et s'ils ont pointé vers nos concurrents et que j'arrive à déterminer pourquoi, est-ce que je peux reproduire la même tactique pour pouvoir le faire. Là, vous avez justement une vision globale d'une stratégie SEO que vous pouvez appliquer pour votre site. Donc, si vous avez des questions sur la partie SEO, laissez-les-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner, cliquer sur la cloche et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.